Vous êtes avec SBS French.
Diffusé sur SBS French, Les Grandes Dames est un podcast financé par l'ambassade de France en Australie. Elles marquent la vie du quotidien. Chacune dans leur domaine, elles se démarquent par leur talent, leur combat, leur histoire. Elles, ce sont ces femmes, ces dames, ces grandes dames. D'où leur vient l'inspiration et la force? Qui sont leurs icônes, leurs grandes dames à elles? On leur a posé la question. Plongez dans leur vie inspirée et inspirante, mesdames et messieurs, bienvenue dans le quatrième épisode des Grandes Dames. Il y a des voix que l'on n'entend pas, des histoires que l'on tait, des corps que l'on cache. Et puis, il y a celles et ceux qui les subliment, celles et ceux qui éclairent les personnes de l'ombre, les destins ignorés. Caroline Guiela Nguyen en fait partie. Elle est autrice, metteuse en scène et réalisatrice, directrice du Théâtre National de Strasbourg. En France, ils ne sont que 6 à diriger un théâtre national. 5 hommes, une femme, elle. Une situation passagère, dit-elle, convaincue que d'autres femmes seront bientôt nommées. Son théâtre est traversé par le réel, c'est pourtant de la fiction. Elle s'entoure des experts du quotidien, comme elle les appelle, celles et ceux que l'on qualifie de vulnérables, là où elles révèlent leur puissance. Elle capte leur force et en fait une œuvre. Souvent, elle les fait monter sur scène, ils ont une histoire à raconter. Caroline leur donne la voix, avec un E, avec un X. Elle ne cherche pas à déranger, mais à montrer. Il y a tant de chaos dans le secret. Caroline Guiela Nguyen a grandi en Provence, loin du théâtre, loin aussi de ses racines et de son héritage familial. Fille d'une mère réfugiée vietnamienne et d'un père juif algérien, elle se construit sans récit d'exil. Puis, en découvrant le théâtre et la littérature, elle réalise que là non plus, ces récits n'existent pas. Pas d'histoire de fracture, pas d'histoire de déplacement. Alors, Caroline décide de créer ses propres récits, d'y inscrire son héritage familial et culturel, ses questions, ses silences et aussi ses colères. Elle traverse le monde. Elle va à la rencontre des gens, elle écoute, elle recueille des paroles, puis elle écrit. Elle écrit sur le chaos, sur les violences du passé, sur la mémoire de la colonisation. Elle raconte les histoires transmises et celles qui se sont perdues. Dans Saigon, elle raconte le Vietnam, la mémoire, les liens familiaux. Lorsque, fort de son succès, la pièce s'exporte à l'international, le public australien découvre Caroline. C'était en 2020. Les retrouvailles se font en 2026 avec Lacrima, sa dernière création jouée à Sydney et à Perth, avec le soutien de l'ambassade de France en Australie. Des retrouvailles triomphales. Dans Lacrima, Caroline raconte les travailleurs de l'ombre, les petites mains, celles et ceux sans qui rien n'existerait. La pièce nous plonge dans l'univers de la haute couture autour de la création d'une robe de mariée royale. Mais très vite, les projecteurs quittent le glamour pour se poser ailleurs. Sur les couturières à Paris, les dentelières à Alençon, les brodeurs à Mumbai. Celles et ceux dont le travail rend le rêve possible et qui restent pourtant invisibles. Bientôt viendra Mélodrame, une nouvelle œuvre qui revient, là encore, sur les racines de Caroline, l'histoire de sa mère et sur la nécessité, aujourd'hui encore, de raconter autrement. Sa maman, Simone, sa grande dame à elle, qui l'a guidée jusqu'à sa mort l'année dernière. Parmi ces grandes dames, il y a aussi Annie Ernaux, prix Nobel de littérature pour son écriture du réel et des vies ordinaires, et Marguerite Duras pour son histoire intime et politique avec le Vietnam. Caroline Guilla Nguyen, c'est une grande dame du théâtre. C'est aussi une conteuse d'espoir. L'espoir de rendre leur force et leur puissance à celles et ceux à qui on les a confisquées. De rendre la voix à celles et ceux à qui elle a été arrachée. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été nommée directrice du Théâtre National de Strasbourg. Il faut savoir que des théâtres nationaux en France, il n'y en a que 6. Et vous êtes la seule femme.
Effectivement, oui.
Ça vous fait quoi ?
En fait, j'ai toujours vécu le fait d'être la seule femme directrice comme étant passager. Pour dire la vérité, j'essaie après quand même un peu de l'oublier dans l'exercice même de ma fonction et des responsabilités que j'ai. J'essaye en fait finalement de faire avec qui je suis, ce que je suis, sans forcément tout le temps me poser la question de si je suis une femme ou pas, ou comment je suis regardée aussi en tant que femme. Voilà, j'essaye de l'oublier pour avancer et faire les choses, quoi.
Caroline, vous avez un style tout à fait particulier et c'est ce dont on va parler pendant la prochaine heure. Vous mettez en scène des histoires très intimes, des histoires qui franchissent les frontières. Vous vous intéressez aux vies oubliées, à celles laissées dans l'ombre. D'où vous vient cette conscience sociale ?
Je ne dirais pas moi que je travaille des récits intimes, je dirais que je travaille la vie des gens dans le mouvement de l'histoire et de la géographie, on va dire. Maintenant, cette idée, effectivement, que je mets en scène des personnages que l'on voit peu, dont les récits sont peu racontés, c'est quelque chose qui me vient de loin. C'est même pas quelque chose que je fais d'abord avec un élan politique, c'est d'abord un élan d'autrice. J'ai souvent eu à répondre à cette question, et je crois que l'une des réponses que j'ai pu amener, qui me paraît la plus juste, c'est que dans mon contexte familial, mon père et ma mère ont eu des vies extrêmement différentes de la mienne. Ma mère a vécu un exil parce qu'elle était vietnamienne et elle a vécu la guerre puis l'exil. Mon père aussi a vécu l'exil. Il était juif algérien. Il a aussi vécu la guerre puisqu'il était très âgé. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis née dans un tout petit village du sud de la France et j'ai été finalement très épargnée. Et donc, je me rends compte que j'ai eu besoin très tôt de me mettre devant les yeux ce que je n'avais pas vu. Et évidemment, c'est passé par exemple, l'une des premières créations que j'ai faites et qui a fait connaître mon travail à un niveau international, qui était Saïgon. Et c'était l'histoire, finalement, cette histoire que je n'avais pas vue, qui était donc l'exil de ma mère. Et de le mettre en scène et de le voir enfin. Et je pense qu'en fait, ce mouvement de faire sortir de l'ombre ce que je ne peux pas voir, c'est quelque chose qui me vient de là, en fait.
C'est une façon, au final, de partager une émotion très loin, vous le disiez tout à l'heure, de toute considération politique.
Ça devient politique, ça l'est politique. Ça l'est parce qu'en fait, on n'invisibilise jamais des gens et des histoires pour rien. Ce qui est caché pour des raisons qui sont politiques, qui sont des choix conscients, collectifs. Et donc, c'est politique. Ce que je dis, c'est que ce qui me pousse à le mettre en scène, ce qui me pousse à écrire ces personnages, donc par exemple, comme dans Lacrima, les brodeurs indiens ou ces dentelières, en fait, je les mets en scène, je les écris, mais au début, quand je commence l'écriture, ça n'est pas politique dans le sens où je ne me dis pas quel est mon programme politique dans mon écriture. Je l'ai fait exister dans mon écriture parce que, bah, comme le dit Annie Arnaud, tant que ça n'est pas écrit, ça n'est pas réel. Et je crois que c'est un peu ce mouvement-là pour moi.
Les personnes que vous mettez dans vos mises en scène, dans vos pièces de théâtre, c'est des personnes qui vous ont été inspirées par la vie réelle. Vous le disiez, les dentelières, les gens qui travaillent dans les ateliers. Et là, c'est juste pour Lacryma, vous le faites dans chacune de vos pièces. Tous vos acteurs ne sont pas forcément des acteurs professionnels. Vous jouez parfois avec des personnes amateurs. Et on l'a dit, vous racontez ce qui normalement est caché. Vous racontez une face du monde qu'on a tendance à vouloir ne pas voir. Est-ce qu'il y a quand même de la fiction dans votre travail ou est-ce que vous allez toujours sur le terrain rencontrer ces gens, essayer de travailler au plus près de la réalité?
Tout est de la fiction. J'adore cette phrase de Borges qui dit « Je n'invente pas de la fiction, j'invente des faits ». Je ne fais pas théâtre documentaire. Par exemple, pour les dentelières, c'est un bon exemple. J'ai effectivement passé énormément de temps à comprendre la réalité de l'artisanat de la dentellerie. Il y a des choses qui sont effectivement très factuelles, très réelles, qui sont dites comme il faut une journée entière pour faire un centimètre carré de dentelle, comme les dentelières avaient des problèmes de santé, voilà, toutes ces choses-là. Pour autant, en fait, ce sont des éléments qui viennent du réel, mais après, c'est toujours un mouvement de fiction qui me fait écrire. C'est-à-dire que les personnages qui sont sur le plateau ne sont pas... n'existe pas. Ça m'étonne toujours quand on voit mes spectacles qu'il y ait ce doute sur est-ce que c'est vrai ou pas. Par exemple, on a souvent dit de mes spectacles que c'était du théâtre documentaire et à d'autres moments, on dit de mes spectacles qu'ils sont extrêmement lyriques et cinématographiques. Alors que c'est deux choses qui, a priori, sont quand même très distinctes. Et c'est vrai que ça m'étonne tout le temps, le fait de ne pas réussir à le mettre dans une case. Mais moi, en tout cas, très clairement, ce qui me pousse à écrire, c'est effectivement, je suis très lestée par le réel. Je vais passer énormément de temps à regarder les gens, à me charger du poids, finalement, du réel. Mais après, ça sera toujours au service d'une fiction.
Et pourquoi ? Pourquoi faire ça ? C'est quoi le but ultime pour vous ?
C'est comme si je me devais d'être conséquente avec les histoires que j'allais créer. Par exemple, j'ai travaillé longtemps en prison avec des détenus. Et je me souviens d'une anecdote qui va pouvoir expliquer peut-être un peu ce que je veux raconter là. C'est qu'un jour, on a décidé d'improviser et on s'est dit, tiens, on va improviser le jour où un surveillant de prison va annoncer à un détenu longue durée qu'il est libéré. Et là, le comédien professionnel vient et joue avec le gardien de prison et va voir le détenu et lui dit « Allez, dépêche-toi, lève-toi, c'est bon, t'es libéré, fais tes affaires, va-t'en, vite, tout ça. » Et en fait, un des détenus, qui jouait aussi un comédien, nous a dit « Non, non, mais on arrête. » Et dit « Mais en fait, tu n'as pas compris. » Il dit « Attendez, reprenez conscience de ce dont il s'agit. Il s'agit d'un surveillant qui m'a vu depuis 10, 15, 20 ans en prison et il me dit aujourd'hui que je suis libérable. » Voilà. Et en fait, on ne sait toujours pas comment on doit la jouer, la scène. Mais par contre, on est chargé de ce que la situation implique de conséquences. Voilà.
Le point commun de toutes ces histoires, que ce soit Saïgon, Lacryma ou là ce que vous venez de raconter sur cette histoire en prison, c'est que ce sont des histoires qu'on ne voit pas vraiment dans la vie de tous les jours. On le disait tout à l'heure, c'est des histoires plutôt cachées, que ce soit des personnes vulnérables ou même des personnes exploitées parfois. Est-ce que le public est réceptif à votre démarche de montrer cette réalité qui parfois peut être brutale, cruelle ?
Clairement, le public est très réceptif et on a vraiment énormément de très beaux retours. Et puis, c'est très beau parce que on l'a joué dans une vingtaine de pays déjà, Lacryma, et on a vraiment un engouement très fort. Pour autant, je me permets de revenir sur une chose qui est importante pour moi, même très importante, même fondamentale. Quand vous dites qu'en fait, je raconte des personnes qui sont fragiles dans une réalité dure, vous ne dites qu'une partie de la réalité. Mes personnages sont effectivement souvent dans des situations de fragilité, Pour autant, mes personnages sont aussi tout le temps en situation de puissance. Je m'explique, dans Lacrima, il était extrêmement important pour moi, au même moment où je pouvais dénoncer des conditions de travail, par exemple, lamentables en Inde, il était très important pour moi que ces brodeurs qui sont victimes de conditions sociales terribles soient aussi puissants de leur savoir-faire. Pareil pour les dentelières, pareil pour Marion qui joue la première d'atelier qui est victime de violences conjugales. Elle est à côté puissante de son métier, de son savoir-faire. Et sans eux et sans elles, rien ne pourrait être fait. Pendant trop longtemps, il a été représenté sur les plateaux des personnes victimes, comme ma mère par exemple, victimes du colonialisme, victimes du racisme, victimes de ségrégation, et on les représentait tout le temps dans l'indignité de ça. Donc finalement, c'est comme si le crime pour moi était commis deux fois. Non seulement il était commis, parce que d'abord ils avaient été victimes, effectivement, du colonialisme, et après on les montrait à l'endroit de leur humiliation. Et ça, précisément, c'est quelque chose que moi, jamais je ne fais et que jamais je ne pourrai refaire. Je le fais, mais instinctivement. Je ne peux pas montrer que des personnages fragiles. Je les montre dans leur puissance aussi.
Vous avez l'impression de contribuer à réveiller les consciences collectives ou est-ce que parfois vous voyez quand même que ça pourrait être plus confortable de continuer à faire semblant de ne pas voir les luttes invisibles?
Ah, c'est sûr que ça pourrait être vraiment beaucoup plus confortable. Après, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que, vous voyez, par exemple, je n'ai pas encore les chiffres de Lacrima, mais je sais que Saigon, il a été vu, donc on l'a joué quasiment, on va être, je pense, à plus de 250, voire 300 représentations. Mais au final, vous voyez, ça correspondait à 100 000 spectateurs. 100 000 spectateurs, c'est un film qui a eu de bonnes sorties. C'est un petit film qui a eu de bonnes sorties de cinéma, mais ça reste très peu. Quand je dis ça, en fait, je ne le dis pas avec désespoir. Je le dis avec, finalement, un amour aussi d'agir, mais sur un public, finalement, pas si immense que ça. Mais j'ai l'impression que cette chose qui fait qu'on s'adresse peut-être à moins de personnes que les séries, que le cinéma, fait que peut-être on soigne d'autant plus le lien, parce que nous avons cette chance, évidemment, avec le théâtre, d'être en présence. Et je crois que effectivement, le théâtre a ce pouvoir de marquer plus fort les esprits quand ce qui est raconté, en plus, est raconté en présence, dans un présent totalement partagé. Et ça me, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime profondément le théâtre, quoi.
Et ce public, qu'est-ce que vous voulez qu'il retienne de vos œuvres? Qu'est-ce que vous souhaitez provoquer chez lui?
Je ne sais pas, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça serait répondre une chose sur un public. On a des publics extrêmement différents et moi, je fais du théâtre aussi parce que précisément, j'aime l'expérience collective dans ce qu'elle ouvre aussi à chacun de rapport à cette histoire, à sa propre intimité, aux échos que ça va pouvoir faire ou pas. Je sais juste que j'essaye, moi, en tant que ma première spectatrice de mes spectacles, d'être tout d'un coup traversé par des émotions, parce que l'émotion, effectivement, est assez importante dans mes spectacles, mais essayer d'être touché et traversé par des vies, effectivement, d'autres vies que la mienne, quoi. Voilà. Et de mettre en présence d'autres humains devant d'autres humains. En fait, c'est que ça, moi, mon travail.
Justement, je voulais rebondir quand vous dites les histoires collectives. Vous racontez vos histoires par le point de vue des acteurs. C'est très important pour vous. C'est l'essence même de votre travail d'écriture, de trouver ce qu'ils ont en commun. Mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose en commun? Est-ce que parfois, il ne faut pas accepter cette différence fondamentale entre les êtres où on peut se rendre compte qu'il n'y a rien en commun?
C'est une très belle question qui est extrêmement d'actualité, je pense. Et je vais y répondre en faisant un détour. La notion d'universalisme m'a toujours posé question. Elle m'a posé question parce que pendant des années au théâtre, on nous a raconté que, en tout cas en France, qu'il y avait des auteurs, d'ailleurs des auteurs, hein, pas des autrices, soyons clairs, des auteurs qui étaient universels. Donc des auteurs comme Molière, comme Racine, comme Shakespeare, qui étaient universels et que finalement se logeaient à l'intérieur de leur écriture l'ensemble des douleurs du monde, quoi. Et j'aime Racine passionnément, même d'ailleurs. J'aime Shakespeare. Je suis moins passionnée par Molière, mais soit, c'est pas un jugement de valeur sur ces auteurs-là. Mais pour autant, je pense qu'en fait, ces auteurs ne contenaient pas l'histoire de ma mère, par exemple. Exilée, la colonisation, la décolonisation, le racisme systémique, tout ça, ils ne l'avaient pas. Ils n'étaient pas dans cette époque-là. Et donc, la notion d'universel, finalement, a mangé, a grignoté l'espace de ceux qui pouvaient raconter d'autres histoires. Et surtout, elle a fait croire que finalement, ben, tout le monde pouvait être tout le monde. Et ça, je ne le crois pas. Je pense qu'en fait, nous avons des différences fondamentales. Et que d'ailleurs, tous mes spectacles, je m'en suis rendu compte, commencent par se situer. On dit toujours où on est. Par exemple, Saïgon, on dit l'adresse. On dit nous sommes au 28 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Ou alors là, Lacryma, nous sommes au 28 rue Saint-Honoré dans le 3e arrondissement de Paris. On situe les personnages. On ne les met pas dans un endroit universel où tout le monde serait. Au contraire, ils sont précisément là où ne sont pas les spectateurs. On leur dit, vous, vous êtes là, et eux, ils sont là-bas. Quand j'ai dit ça, je dis qu'en fait, il y a de la distance entre les gens, et que cette distance, il ne faut pas la réduire. Enfin, en tout cas, il faut la regarder comme telle. Je dis qu'il y a des différences fondamentales, immenses, entre les gens, et ça, il ne faut pas ne pas la regarder. Pour autant, c'est vrai que j'ai intérieurement l'espoir de cet en commun. Cet en commun qui fait qu'on a une Marion Nicolas, première d'atelier, qui finalement traverse des choses comme ses dentelières, qui finalement va travailler des choses comme ses brodeurs en Inde. Et je ne mets pas les violences sur le même échelle, mais pour autant, quelque chose les relie. Là, c'est le savoir-faire. Et c'est vrai que cette chose-là, qui va être le savoir-faire, me passionne. Et c'est ça que j'essaye de trouver, effectivement, dans mes spectacles. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qu'il y a en commun ? Voilà.
Donc là, vous liez les gens par leur savoir-faire. Parfois, vous liez les gens aussi par un fil géographique. Vous le disiez tout à l'heure, Paris, Alençon, Mumbai, et ça encore, c'est pour une seule pièce de théâtre. Vous liez aussi les gens entre eux à travers les générations. Vous avez évoqué tout à l'heure le poids de l'héritage. Est-ce que vous pensez qu'on peut totalement s'émanciper ou non de l'héritage familial, de l'héritage historique de chacun ?
Ça dépend. Tant que dans nos livres d'histoire, tant qu'en fait, on n'aura pas, nous par exemple ici en France, pensé, posé à plat, reconnu des violences historiques, rien ne passera. Rien ne passera. Et je dirais même plus, chaque violence historique détruit même la notion du temps. Elle détruit la notion du temps parce que le passé se réinvite toujours, tout le temps, dans la vie de ceux pour qui en fait cette violence a été commise. On crée du chaos. Donc finalement, une génération, c'est dire cette génération-là a vécu ça, c'est du passé. La génération maintenant vit ça, c'est du présent. S'il n'y a pas eu un mouvement politique, social, collectif, qui fait qu'en fait, on reconnaisse les violences qui ont existé dans notre passé collectif, en fait, la génération finalement qui vient après, le passé n'est pas passé, il sera encore là.
Cette violence historique, ce chaos, cette histoire coloniale, tout ce qu'on a abordé déjà un petit peu, mais juste superficiellement, je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Ça tient une énorme place dans votre narration. C'est un sujet personnel, vous l'avez évoqué un petit peu. Ce qui nous amène à parler de votre grande dame à vous, une de vos grandes dames, puisqu'on va en évoquer plusieurs. Mais on peut commencer par votre maman, vous l'avez dit, l'exil dans les années 60 du Vietnam. Toute votre carrière, vous pensez que vous lui devez ?
Bah, déjà, je lui dois ma vie, on va dire, ce qui est déjà finalement bien plus que ma carrière. Mm-hmm. C'est marrant parce que finalement, je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a transmis et parce qu'elle ne m'a pas du tout transmis.
Le poids des secrets y a...
C'est pas tellement les secrets, je pense que ma mère les a jamais vécus comme des secrets, mais comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on n'a pas en France, par exemple, une reconnaissance pure et simple des violences qui ont été commises contre les rapatriés d'Indochine, et que finalement on ne dit pas à ces communautés-là que ce qu'ils ont vécu, c'est un événement de l'histoire française, et ben quand on ne reconnaît pas un événement, en fait, les personnes qui l'ont vécu peuvent même, eux, à un moment, penser qu'il s'agit d'un non-événement et donc ne pas le transmettre, puisque c'est un non-événement. Donc, ce n'est pas, finalement, ma mère aurait vécu quelque chose et elle l'aurait gardé comme un secret et qu'elle n'aurait pas voulu me transmettre pour ne pas me faire du mal. C'est qu'en fait, finalement, elle a continué de penser que ce qui est arrivé n'était pas un événement. Donc, elle ne me l'a pas raconté. Mais pour autant, la violence circule, l'humiliation circule. Et qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, 50 ans, 70 ans après la défaite de la France et de la décolonisation au Vietnam, de quoi j'hérite, de quoi je suis fait, voilà, qu'est-ce qui est encore là? C'est finalement beaucoup, ce qu'elle ne m'a pas transmis, fait partie énormément finalement de mon écriture, de ce que je cherche, de ce qui m'anime, de ce qui me met en mouvement tout le temps, quoi. Après, elle m'a aussi transmis des choses, elle m'a dit des choses, elle a été une femme pour moi qui a été un modèle dans le sens où ça a été une femme qui a vécu des choses qui ont été très 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 violentes et qu'elle a eu cette force et cette dignité dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'elle m'inspire peut-être aussi chacun de mes personnages, quoi.
Vous avez grandi dans un univers qui n'était absolument pas artistique. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à vos œuvres, vous avez l'impression de vous rapprocher de votre histoire métissée ?
Oui, oui, complètement. J'ai même tout fait. En fait, comment dire ? J'ai dû tordre le théâtre pour qu'il se rapproche finalement de ma vie. Quand j'ai commencé à faire du théâtre, tout m'éloignait de ma vie. Quand j'ai commencé à rentrer dans mon école de théâtre, on parlait de tout sauf de ce qui était le noyau de ma vie. On avait même chassé des plateaux les accents, on avait des langues qu'on n'entendait jamais, on avait des corps qu'on ne voyait jamais. Tout ce qui constituait mon enfance, ma vie, mes parents, ce que j'aime, tout, la nourriture, les couleurs, tout, tout était à l'écart des plateaux que je côtoyais. Et il y a eu un moment où j'ai dû même me fâcher finalement avec le théâtre et le tordre pour finalement récupérer là d'où je venais en fait et me réconcilier quelque part, en tout cas réconcilier ces deux espaces, l'espace de mon enfance et l'espace du théâtre, quoi.
Votre maman est décédée l'année dernière, elle a eu le temps de voir Saïgon, elle en pensait quoi ?
Ma mère a énormément aimé Saïgon, elle est venue plusieurs fois le voir, elle a amené ses amis, sa famille, tout ça. Mais c'est drôle parce que vous voyez, c'est pas le fait qu'elle ait aimé Saïgon qui m'a le plus marqué. C'est le fait que pour la première fois de sa vie, je pense que le théâtre, c'était chez elle. Et que finalement, qu'elle ait aimé ou qu'elle ait pas aimé, en fait, elle avait surtout la liberté et la possibilité tout d'un coup d'être chez elle ou d'être dans un lieu dans lequel, en fait, ce qui était fait lui était adressé. Et ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Et c'est ce que j'essaye aussi, d'ailleurs, de faire maintenant, pas que pour ma mère, mais pour d'autres.
À votre tour, vous avez eu une fille. Vous êtes maman d'une jeune fille. Quel est l'héritage que vous voulez à lui transmettre ?
Je sais pas. Je pense pas en termes, pour l'instant, d'héritage. Ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de lui livrer une histoire un peu plus éclairée que celle que j'ai eue. Là, mon prochain grand projet que je vais faire pour 2028 s'appelle Mélodrame. Ça va revenir sur la question du Vietnam et de la France. Enfin voilà, j'ai fait Saïgon du vivant de ma mère. Ma mère est morte et là, je vais faire Mélodrame. Et je pense que je vais aborder aussi les questions avec finalement un niveau de colère peut-être plus élevé, peut-être que la colère que justement du vivant de ma mère, je ne pouvais pas me permettre. Et je pense d'ailleurs que cette colère est assez saine. Elle n'est pas là du tout pour détruire. Elle est là pour vraiment remuer et essayer de clarifier l'histoire avec un grand H. Et je pense que c'est surtout ça que j'ai envie de livrer à ma fille, c'est-à-dire une histoire plus claire, plus débarrassée de ce qui m'encombre.
Vous parlez de colère saine. Vous pensez que Mélodrame, ce sera la première pièce dans laquelle vous la laissez vraiment éclater, cette colère saine, ou vous pensez que ça a habité toutes vos œuvres quand même jusqu'ici ?
Non, c'est une très bonne question et je peux y répondre de façon extrêmement claire et nette. Ça n'a jamais existé dans toutes mes œuvres avant. Jamais. Et en fait, il y aura ce point de bascule qui sera vraiment lié à la mort de ma mère. Je sais qu'avant, je ne pouvais pas. C'est comme si elle avait dressé une digue entre moi et la violence, déjà, de façon globale. Elle avait dressé cette digue-là. Et elle a réussi, hein, d'ailleurs. J'ai été quelqu'un de très protégé, du mieux qu'elle a pu. Et il reste malheureusement toujours des choses qui transpercent. C'est de ça dont en fait je veux parler. Et oui, Mélodrame traitera de ça, oui.
Il y a d'autres femmes qui vous ont inspiré dans votre vie. Je pense notamment à deux personnalités célèbres comme Marguerite Duras ou encore Annie Ernaux. Vous les voyez comme des femmes précurseurs ?
Ce sont des femmes qui ont été extrêmement importantes. Duras, pour une raison assez belle hein, d'ailleurs, hein, c'est que la première fois où j'ai rencontré le Vietnam, j'avais 16 ans, c'était à l'époque où pour la première fois on invitait le gouvernement vietnamien à accepter que les rapatriés d'Indochine, donc ma mère, aient le droit de revenir dans leur pays. Et donc ma mère, ça n'avait pas mis les pieds au Vietnam depuis 40 ans et elle a décidé d'y aller, évidemment. Enfin, évidemment non, puisqu'il y en a qui ont décidé de ne pas y retourner, mais voilà. J'ai fait ce voyage avec ma mère pour la première fois, retournant dans son pays, et moi j'avais 16 ans, et en fait j'ai absolument rien compris. C'est-à-dire vraiment, je suis arrivée dans ce pays, j'étais persuadée tout d'un coup que j'allais y trouver mon identité, là, ma raison d'être. Bon, finalement, je suis arrivée là-bas, vraiment, je pense que j'étais tellement... je ne comprenais rien. Déjà, je ne comprenais pas la langue, puisqu'évidemment, ma mère ne m'a pas transmis le vietnamien, parce qu'elle avait peur que je ne m'intègre pas en France. Donc, je ne savais pas parler vietnamien. De toute façon, le vietnamien que ma mère parlait n'était pas tout à fait le vietnamien qui se parlait au Vietnam au moment où elle est retournée, parce que la langue avait bougé en 40 ans. Puis, les gens voyaient ma mère, non pas comme une vietnamienne, mais finalement comme une Viet-Q, c'est-à-dire une vietnamienne étrangère. Donc, finalement, moi, en plus, je n'avais même pas du tout le même corps. Je ne ressens pas du tout à une vietnamienne. Je ressens beaucoup plus une espèce de mélange. Les gens pensent beaucoup que je suis marocaine ou algérienne. Je pense que c'est lié aux origines de mon père, mélangé avec mes origines indiennes. Bon, bref, je ne rencontrais pas le Vietnam et j'ai eu comme une fermeture, en fait, avec ce pays. Et ce qui est très beau, c'est que c'est Marguerite Duras qui m'a reliée, finalement, au Vietnam. Quand je rentrais au TNS, j'avais 24 ans. J'ai lu Le ravissement de l'Olvestein, puis après j'ai tout lu, je pense vraiment avoir tout lu de Duras. Et là, tout d'un coup, c'est comme si même le ravissement de l'Olvestein, qui ne se passe pas au Vietnam, hein, mais j'ai senti intuitivement, et d'ailleurs derrière ça s'est vérifié, que Duras en fait m'ouvrait la langue vietnamienne. Que finalement, c'était cette femme blanche qui avait côtoyé, puisque Duras a su parler vietnamien, et ça se sent dans son écriture, qu'elle m'ouvrait la langue, et que quand on ouvre la langue, quelque part, on ouvre tout, enfin, on ouvre beaucoup de choses sur un pays. Et j'ai été comme ça, mais bouleversée par l'écriture de Duras. J'en pleurais, c'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression d'une chose tellement intime, mais sans comprendre pourquoi. Je sais maintenant que le rapport que j'ai à l'écriture de Duras, il me vient profondément du fait qu'elle ait été traversée par le vietnamien et que quelque part, ma mère, sans me léguer le vietnamien comme langue, m'a quand même légué quelque chose du vietnamien comme langue. Et que même là, la façon dont je vous parle, je suis sûre que se loge à l'intérieur de ma façon d'ordonner les mots ou de créer des images, quelque chose qui a à voir avec le Vietnam. La langue vietnamienne. Et ça, c'est Duras qui me l'a livré, en fait. Et plus tard, ma rencontre avec Annie Ernaux, elle est plus liée, on va dire, à cette chose de la réconciliation. Donc évidemment, Annie Ernaux, ça a été comme ça l'icône aussi de tous les transfuges de classe. Moi, c'est un peu différent. Je venais d'un milieu plutôt classe moyenne. Mes parents, les deux d'ailleurs, hein, ont vécu vraiment dans ma mère, dans la misère totale. Puis après, ça allait un peu mieux, mais bon, voilà, mes parents, ma mère était secrétaire, puis après, elle a vendu des produits de porte-à-porte Avon, puis mon père, pareil, faisait du porte-à-porte, puis il a été serveur, mais bon, voilà, j'ai grandi un peu dans cet espace social-là, avec des langues différentes chez moi, mais et que le théâtre, finalement, était encore dans un autre milieu, beaucoup plus bourgeois. Et en fait, Duras a vécu ça, évidemment, dans son parcours, et... Elle racontait quelque chose qui m'a toujours émue. Elle dit « J'avais besoin de réconcilier la femme qui écrivait les cartes postales à ses parents pour leur dire que tout va bien avec la femme qui écrivait les livres qui allait avoir les prix Goncourt. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément bouleversée aussi. Et en fait, Annie Ernaux, quelque chose pareil dans son écriture. Vous me parliez tout à l'heure de la question du réel, de pourquoi est-ce que c'est si important pour moi d'être lestée par le réel. Annie Ernaux, elle a ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle rentre dans les histoires avec une façon de les raconter quasi chirurgicale. D'ailleurs, elle le dit, elle veut se dégager de tout romantisme, elle veut aller comme ça à la racine du mot ou à la racine de la situation pour écrire. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on a l'impression comme ça d'une écriture très simple, alors qu'en fait, elle est tellement puissante et tellement construite. Mais voilà, et quelque chose dans son écriture, effectivement, m'a aussi totalement passionnée et a créé aussi cet espace de réconciliation pour moi dans l'écriture qui allait venir, quoi.
Et il y a un grand point commun entre Annie Ernaux et vous, c'est sûrement d'ailleurs une forme d'inspiration pour vous, c'est ce fait de parler des contraintes collectives de la mémoire personnelle.
Oui, mais ce que fait Duras aussi, hein, quelque part. Hein.
On arrive vers la fin de cette magnifique interview, Caroline, et justement pour le mot de la fin, je voudrais aborder rapidement un sujet. La société actuelle est votre terrain de jeu, manifestement. Mais du coup, c'est quoi l'inspiration pour le futur ? De quoi sera fait demain, selon vous ?
Eh ben, en ce moment, je n'arrête pas de me dire que le futur sera fait résolument de ce que l'on va réussir à faire remonter et régler du passé. Je suis très prise dans mon prochain projet, la mélodrame. Et en fait, il est question du chaos du temps, quoi, ce que je vous racontais tout à l'heure. Pour moi, j'ai un chaos temporel. Mais vous savez, je vais finir par ça parce que je trouve que c'est assez beau. Vous savez, dans la langue vietnamienne, il n'existe ni passé ni futur. Alors c'est très difficile à concevoir pour nous, mais c'est comme ça. Et donc, dans la langue vietnamienne, on pourrait dire que tout, que ce soit au passé ou au futur, que tout est tout le temps au présent. Moi, je suis à cet endroit-là actuellement de ma vie, où je sens que tout est tout le temps continuellement au présent, le passé et le futur. Et que c'est de ça dont il va falloir que j'en fasse quelque chose.
Merci beaucoup Caroline, merci de nous avoir raconté votre histoire, d'avoir rendu hommage à ces femmes fortes, puissantes, d'avoir rendu hommage à ces gens de l'ombre qui peuvent être vulnérables, mais comme vous l'avez dit, qui sont surtout très forts. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.